Vous avez toujours voulu connaître votre QI. Eh bien, nous n'allons pas vous proposer un petit test, mais ce que je peux déjà vous dire, en tout cas, c'est que si vous écoutez CQFD tous les jours, évidemment que votre QI est en hausse. Hein, il faut s'envoyer des fleurs de temps en temps. Plus sérieusement, Bastien Confineau, vous vous êtes penché sur la pertinence de ces tests de QI.
Bah oui, puis je me suis toujours demandé si un test QI correspond à une mesure objective de l'intelligence. Et mon premier doute vient du fait qu'il n'y a pas une intelligence, mais des intelligences. On va se pencher là-dessus tout à l'heure. Et puis, deuxième doute, il me semble qu'on mesure que certains aspects de notre intelligence grâce à ces tests. Alors, qu'est-ce qu'on mesure exactement? La réponse de Rachel Marchitelli, elle est psychologue associée à la consultation spécialisée du développement au CHUV.
Les échelles qu'on a habituellement débutent chez des enfants de 2 ans et demi et ensuite vont jusqu'à l'âge adulte. Et on utilise vraiment cet outil pour une question spécifique. Donc ça peut être une question qui porte réellement sur le QI en tant que tel, quand on suspecte un haut potentiel intellectuel ou au contraire un retard mental. Ça peut être des questions pour savoir comment est distribué le potentiel de l'enfant, à savoir est-ce qu'il a un potentiel intellectuel qui est homogène dans tous les domaines, un peu le même, ou est-ce qu'il y a des domaines où il est très bon et des domaines où il serait très en dessous de la norme. Donc ça permet un peu de voir s'il a un profil hétérogène ou homogène, ce qui peut expliquer aussi un certain nombre de difficultés que l'enfant rencontre dans le contexte scolaire, par exemple.
Ça veut dire qu'un test de QI, ça ne va pas être juste à la fin de donner un QI, vous avez 103 de QI, puis basta, il y a une analyse à l'intérieur de ce 103 de QI, il y a plein d'autres choses, vous, que vous pouvez repérer.
Exactement. On a évidemment le QI total, mais on a des sous-catégories de QI, donc un QI plutôt verbal, un QI perceptif, mémoire de travail et vitesse de traitement. Et on va regarder non seulement si les notes obtenues dans chaque échelle sont homogènes entre elles, et si ensuite les notes obtenues à chaque échelle sont homogènes entre elles. Et ensuite, on a des tabelles pour calculer un QI total. Mais c'est vrai que chez un grand nombre d'enfants, en tout cas qu'on reçoit ici à la consultation et qui ont des difficultés au niveau des apprentissages, au niveau scolaire, ça arrive très souvent que les notes soient plutôt hétérogènes. Et à ce moment-là, on peut officiellement calculer un QI total, mais qui finalement a peu de sens, puisque le QI total serait censé représenter le fonctionnement intellectuel global de l'enfant. Donc si c'est très hétérogène, ça a peu de sens de faire une sorte de moyenne des notes intermédiaires.
Et finalement, une fois que vous avez ce QI, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Bon, alors généralement, on ne fait pas un bilan seul. Enfin, de toute façon, un bilan de QI, un bilan cognitif, vient toujours en complément d'une évaluation clinique. Et toujours, l'enfant, il est dans une école, il est dans une famille, donc on prend en compte les différents domaines. Et puis, selon la question qui nous est posée, on va pouvoir donner des indications sur ce qui nous semble plus le mieux à faire pour l'enfant. Mais après, ce n'est pas nous qui prenons des décisions, c'est évidemment les parents. Et puis, en ce qui concerne l'école, c'est l'école et les parents.
Alors là, vous avez des tests de QI que vous utilisez, donc vous avez une petite mallette et puis à l'intérieur, vous avez vos tests de QI. Ça veut dire que si un enfant vient pour un test, vous allez sortir des outils. C'est à quelle tête, ces outils?
Donc on s'installe avec l'enfant, on explique à l'enfant, on lui rappelle voilà pourquoi il est venu nous voir. Donc ensuite, on voit l'enfant seul et puis on démarre à proprement dit le test avec lui. Donc on a effectivement du matériel soit verbal, des questions qu'on lui pose, on lui demande de définir des concepts ou de définir des mots ou de comprendre certains mots. Alors après, ça dépend de l'âge de l'enfant, les exercices sont aussi différents selon l'âge de l'enfant.
Mais ça peut être aussi simple que dire qu'est-ce qu'une chaise, et puis il faut qu'ils disent ça a quatre pieds, ça a un dossier, c'est sur quoi on s'assoit, puis vous avez des critères comme ça?
Oui, exactement. Donc ça peut être un type d'exercice, puis on a des critères selon si la réponse elle est complètement juste, ou si elle est partielle, ou si elle est fausse.
Okay. Donc ça c'est pour le verbal, et puis pour le reste?
Donc ensuite, il y a pour tout ce qui est perceptif, donc il y a par exemple des cubes qu'on a ici avec lesquels, alors on a des cubes plus ou moins compliqués selon l'âge, ça c'est ceux pour les plus grands, mais qui ont des...
Je les trouve déjà très compliqués.
qui ont des faces bicolores et des faces soit blanches, soit rouges, et avec lesquelles on va proposer à l'enfant de recopier des formes qu'on va lui montrer avec 2 cubes, 4 cubes et ensuite 9 cubes.
C'est un peu le principe du tangramme, là, ces espèces de dominos chinois pour faire des formes.
Donc voilà, là l'idée c'est un peu de voir comment l'enfant peut se repérer dans l'espace, comment il peut s'orienter, donc... et comment il peut repérer aussi la forme globale. Chez certains enfants, ça peut être difficile. Ensuite, on a des images, tout un tas d'exercices qui reposent sur des images où on va lui demander de mettre ensemble des images qui vont ensemble par catégorie, de catégoriser ou de nous donner le nom de certains objets qu'on va lui montrer. On a ce qu'on retrouve, alors ça se rapproche peut-être plus de choses qu'on peut voir sur Internet ou des choses comme ça, mais des suites logiques à compléter. Donc là, c'est vraiment plutôt des choses où l'enfant n'a pas besoin d'utiliser le langage. C'est vrai que pour certains enfants, alors soit parce qu'il y a des difficultés de langage, ben, c'est compliqué. On a aussi une échelle spécifique aux enfants qui n'ont pas de langage ou qui sont allophones, donc qu'on peut utiliser, qui repose pas du tout sur la dimension du langage.
Allophone, ça veut dire ?
Les enfants qui ne parleraient pas la langue du pays d'accueil. Et puis, mais c'est vrai que pour certains enfants qui peuvent être mal à l'aise dans la relation ou qui, quand on est comme ça en individuel, ben, des fois, les exercices où il y a du matériel qui médiatise un peu la relation, ça leur permet d'être plus à l'aise et ils sont des fois un peu meilleurs là-dessus.
À partir de quel moment, à partir de quel QI, est-ce qu'on considère qu'un enfant est hors de la norme ?
Donc, on considère que la norme, donc ce qui est considéré comme normal, donc qui n'est pas pathologique, se situe entre 80 et 120, et puis qu'entre 70 et 80, c'est une zone qui est décrite comme limite, et entre 120 et 130, une zone également décrite comme limite. Donc après, à partir de là, on peut avoir des enfants qui sont tout à fait dans la norme, qui vont être dans la norme supérieure, par exemple, ou la norme inférieure. Et après, il y a un très petit pourcentage d'enfants qui se situent hors de ces normes, tant à un bout de la courbe qu'à l'autre bout.
C'est-à-dire moins de 70 ou plus de 130.
Exactement. Donc les enfants qui vont être à plus de 130 vont être dans la catégorie des hauts potentiels. Et les enfants qui auront moins de 70 seront dans la catégorie dite du retard mental léger.
Quelle est la proportion d'enfants qui sont justement hors de la norme, c'est-à-dire au-delà de 130 et en dessous de 70?
2% à peu près des enfants se situent en dessous de 70, donc dans la catégorie de retard, et 2% se situeraient en dessus de 130 dans la catégorie haut potentiel.
Et ça monte jusqu'à combien ? Il y a une limite ? Ou ça descend jusqu'à combien ?
Alors bon, après, on a des problèmes de mesure. Si on veut en dessous, on va descendre dans le retard mental. Au bout d'un moment, on ne va pas plus pouvoir réellement mesurer parce qu'il
n'y aura plus d'interaction.
Il n'y aura plus d'interaction, l'enfant pourra ou la personne pourra plus répondre à ce qui lui est demandé. De l'autre côté, ça peut monter j'en ai jamais vu, mais à 150 ou 160, j'imagine, qui doit être un peu le maximum.
Einstein, par exemple.
Par exemple.
Voilà, Raquel Marchitelli qui n'a jamais vu de QI à 160, mais c'est parce qu'elle ne vous a pas encore testé, Bastien Confino.
Merci Stéphane, je n'osais pas le dire moi-même, mais puisque vous le dites, je prends le compliment, évidemment parfaitement exact.
Voilà, les 100 francs,
c'est là, d'accord.
Merci.
Mais en fait, on peut facilement se croire supérieurement intelligent comme moi,
ouais.
Si on se fie aux tests qu'on trouve sur Internet. Avec beaucoup d'entraînement, on arrive à faire des scores qui sont finalement assez exceptionnels, sauf que voilà, ça vaut pas grand-chose comme test. C'est Thierry Le Serre, maître d'enseignement et de recherche en psychologie différentielle à l'Université de Genève, qui nous l'explique.
Les tests qu'on trouve sur Internet ou qu'on trouve dans les médias, parce qu'il y a quelques années, il y avait M6 qui avait fait son test en direct.
Vous avez essayé ?
Je l'ai essayé, j'avais été même interviewé par je sais plus quelle télé.
Et en fait, vous aviez fait quoi ?
J'avais eu un bon score, ce qui était la preuve que le test n'était pas bon, en fait.
Là, vous êtes modeste.
Non, parce qu'en fait, je ne me souviens plus exactement de la valeur, mais j'arrivais sur les valeurs de 120, je sais pas, 125-130. 125-130, c'est 2% de la population. Je ne suis pas dans les 2% supérieurs de la population. Donc ça veut dire que probablement, en fait, le chiffre n'est pas correct. Et ça, il y a une raison, à mon avis, relativement facile. C'est que quand les gens font ça sur Internet, leurs épreuves sont de bonnes épreuves, parce qu'en fait, ils s'appuient de tests existants, donc il y a des composantes raisonnement, il y a des composantes visio-spatiales, des composantes verbales. Donc les stimuli qui sont présentés, en fait, sont de bons stimuli en tant que tels. Ce qu'il manque sur les tests sur Internet, en fait, c'est ce qu'on appelle des normes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé les 50 questions, vous obtenez 40 points, ça ne dit pas que vous êtes bon, parce qu'en fait, vous ne savez pas quelle était la moyenne du groupe, des individus. Et peut-être en réalité que les individus qui appartiennent à mon groupe d'âge, peut-être qu'ils ont réussi les 50 questions sur les 50, et qu'avec 40 questions, je suis très mauvais en réalité. Et c'est ça en fait qui manque dans les tests sur Internet online, c'est en fait qu'à mon sens, ils n'ont pas de données, ils n'ont pas fait passer le test à un échantillon, ce qu'on appelle les échantillons représentatifs, donc ils ne savent pas quelle est la performance moyenne des individus d'un groupe d'âge ou même d'un groupe ethnique particulier.
Et puis, il n'y a pas un effet aussi d'habitude, si on en fait beaucoup de ces tests, on devient plus performant?
Alors, il y a tout à fait un effet de ce qu'on appelle, nous, un effet d'apprentissage. C'est-à-dire que vous mémorisez les stratégies que vous avez identifiées, vous vous souvenez des questions qui ont été posées. Sur les tests d'intelligence qu'on utilise, on a une règle, alors qui est relativement empirique, c'est de considérer que le test ne doit pas être réadministré à moins d'un an d'intervalle. Parce que si vous faites passer le test à un enfant avec un intervalle qui est inférieur à un an, vous pouvez gagner comme ça 5-6 points et le QI, même dans certains cas, pourrait gagner plus de 10 points. Donc si vous êtes dans une perspective diagnostique, vous risquez de passer à côté du bon diagnostic en fait.
Et donc le diagnostic doit être fait par un professionnel.
Absolument, mais même là, attention aux biais culturels. Suivant votre éducation et puis votre culture, vous ne serez pas forcément apte à répondre à des tests conçus par et pour des pays occidentaux. Mmh. Et notre vision de l'intelligence n'est pas forcément la même qu'au fin fond de l'Amazonie ou dans les montagnes de l'Himalaya. Thierry Le Serre.
Alors, il existe en fait des définitions de l'intelligence, parce que l'intelligence est liée à un contexte socioculturel. Et donc, ça veut dire que chaque culture, chaque pays a défini en fait implicitement ce qu'est les comportements intellectuels. Et donc, dans notre culture, on met l'accent principalement sur ce qui vont être des compétences logiques, mathématiques, verbales, avec toujours derrière une composante liée à la capacité à s'adapter, en fait, à faire face à de nouvelles situations.
Alors ça c'est pour ici, vous avez des exemples dans d'autres cultures où on a défini l'intelligence un peu différemment?
Alors on a les cultures, certaines cultures par exemple taoïstes ou basées sur le confucianisme vont mettre l'accent sur les relations interpersonnelles, l'humilité, la modestie. On a des groupes africains qui vont mettre l'accent sur la stabilité du groupe et donc la cohésion avec une composante interpersonnelle qui va être plus importante. Nous, ce n'est pas une composante clé dans notre culture, en fait.
Et si on va au fin fond de l'Amazonie, dans des tribus qui sont très reculées, où il n'y a même pas de définition à la limite?
Alors, je ne connais pas les définitions qu'ils donneraient. Il y a peut-être des études qui ont essayé de voir ça. Il est clair qu'à ce moment-là, sur certaines peuplades très reculées, je pense qu'un comportement intellectuel, ça serait la capacité à survivre. Et donc à trouver de la nourriture, à savoir trouver des plantes, à savoir éviter des animaux. Et donc, ce serait la capacité à s'adapter à un environnement pour survivre à ce moment-là qui serait l'intelligence la plus haute, pratiquement.
S'il y a plusieurs définitions de l'intelligence, ça veut dire que quand on va vouloir mesurer cette intelligence, on ne peut pas imaginer qu'il y ait de test universel. Il faut tenir compte de cette culture.
Alors, une partie, vous avez raison, et le problème c'est que c'est pas du tout ce qui est fait, parce qu'on fait l'hypothèse que les processus qui gouvernent nos capacités seraient universels, et la conséquence c'est qu'il y a beaucoup d'études qui font passer les mêmes épreuves à toutes, pas les peuplades, mais tous les groupes ethniques et culturels de la planète, pour évaluer en fait les différences culturelles dans les capacités intellectuelles. Et donc on a des études sur une centaine de pays basées sur les données anglaises de référence. On prend les enfants anglais comme référent et à partir de là, on situe tous ces groupes par rapport aux enfants anglais.
Et donc ça a une quelconque valeur selon vous, ce genre de référence et d'universalité?
Alors je pense que la valeur, c'est de permettre de déterminer quels sont les groupes qui utiliseraient les mêmes compétences que les nôtres. Et donc de dire, si on arrive sur des valeurs relativement similaires, c'est probablement parce que cette culture met aussi l'accent, en fait, sur les mêmes types de compétences cognitives. Quand on dit, que le Zimbabwe arrive à un QI qui serait de 75-80... Pour moi, la seule lecture qu'on peut avoir, c'est de dire ils utilisent une autre définition de l'intelligence et ça veut dire que la comparaison est peut-être pas la plus pertinente.
Ça veut dire que dans l'autre sens, si le Zimbabwe invente un test qui correspond à leur intelligence, on sera probablement assez mauvais.
Peut-être. Le problème, c'est que là, c'est les Américains et puis les pays occidentaux qui dominent le marché des tests et les définitions de l'intelligence. Donc, on s'aligne sur les tests des pays occidentaux. Et je ne connais pas de tests spécifiquement développés au Zimbabwe qui auraient une répercussion dans nos pays.
Quelle est la part d'inné et d'acquis dans l'intelligence ? Parce que si un Zimbabwéen, par exemple, vient vivre en Europe, est-ce qu'il va réussir les tests QI de la même manière que les Européens ?
Alors, personnellement, je pense que la question de l'inné et de l'acquis est une mauvaise question, parce que, en fait, c'est nécessairement une interaction entre les deux, et que nous ne savons pas, à l'heure actuelle, clairement séparer ce qui serait de l'influence du patrimoine génétique et de l'environnement. Et donc, il est clair, pour répondre à votre question, que si un enfant, il y a des études comme ça sur des enfants indiens, pakistanais, qui émigrent en Angleterre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans un premier temps, ils ont des performances qui sont moins bonnes. Et puis, vous leur laissez 4-5 ans, le temps de connaître la langue suffisamment, le temps de connaître la culture suffisamment, et à ce moment-là, ils ont des performances comme la moyenne des enfants anglais. Donc, il y a une plasticité. Il y a peut-être des contraintes génétiques, mais il y a une grande plasticité liée à l'environnement qui fait que tout le monde peut progresser, hormis des pathologies particulières.
Si on étudie des familles avec des jumeaux, des faux jumeaux, etc., on arrive à déduire une composante un peu génétique de l'intelligence, une transmission éventuellement de l'intelligence d'un parent à un enfant.
Alors ça, c'est ce qui est fait à partir effectivement des méthodes des jumeaux et la méthode des adoptions. Si on en croit ces travaux, ils arrivent à la conclusion au niveau de l'intelligence que à peu près 50 à 60% de la variance, c'est-à-dire des différences individuelles, seraient expliquées par le patrimoine génétique. Le problème, c'est que c'est une donnée de groupe, c'est une statistique groupale, et donc ça n'a aucune application à un niveau individuel. Donc d'un point de vue individuel, on ne sait à rien dire. Et pour l'instant, on n'a pas identifié de gènes liés aux capacités intellectuelles.
Les humains n'ont pas tous la même taille de cerveau. Ça peut dépendre du sexe, ça peut dépendre de l'ethnie. Est-ce qu'il y a une relation entre taille du cerveau et intelligence ?
Alors, les données montrent une relation avec ce qu'on appelle une corrélation qui est relativement faible, puisque c'est une corrélation qui est l'ordre de 0.30.
Ça veut dire quoi ?
Alors ça veut dire que si on avait une corrélation parfaite, si vraiment tous les individus qui avaient le cerveau le plus gros avaient les capacités intellectuelles les plus importantes, on aurait une corrélation de 1. Donc si on avait une relation inverse, vous avez à moins 1, et quand on est autour de 0, c'est qu'il n'y a pas de relation du tout. Donc avec 0.30, alors on peut toujours dire qu'elle est significative sur un plan statistique, mais ça montre qu'il n'y a pas une grande relation, elle n'est pas très très forte, même si elle existe d'un point de vue statistique, elle n'est pas très forte.
Mais ça veut dire que les plus gros cerveaux sont un peu plus intelligents, c'est dans ce sens-là.
Ça veut dire effectivement qu'il y a une tendance à ce que les individus avec les volumes cérébraux les plus importants aient tendance à présenter de meilleures performances intellectuelles.
Et les hommes ou les femmes ont les plus gros cerveaux ?
Alors, il y a là aussi un débat. Certains suggèrent que les hommes auraient un volume cérébral en moyenne plus important que le volume cérébral des femmes, ce qui, pour certains auteurs comme Irvine ou Lynn, irait dans le sens qu'effectivement, on a des différences de performance intellectuelle entre les hommes et les femmes qui seraient liées à ces différences de volume cérébral.
On tombe vite dans des domaines un peu sulfureux quand on évoque ce genre de choses. Ça peut être au niveau homme-femme, ça peut être au niveau ethnique, puisqu'il y a des ethniques qui ont des plus gros cerveaux que d'autres.
Alors tout à fait, c'est un des problèmes par rapport à ce type d'études, c'est qu'on arrive très très vite sur des positions politiques et idéologiques. Et donc il y a un glissement très rapide, je veux dire, si vous parlez des différences ethniques, on observe qu'il y a par exemple 15 points de QI de différence entre les Afro-Américains et puis ce qu'on appelle les Caucasiens aux États-Unis. Ça, c'est un fait qui est constaté depuis une centaine d'années. Mais ce fait, cette donnée-là, ne signifie pas que les Caucasiens ont un meilleur patrimoine génétique que les Afro-Américains. Et donc il y a ce glissement qui est fait régulièrement, encore aujourd'hui, par différents chercheurs, en considérant que c'est la preuve de différences de patrimoine génétique. Ça, c'est pas vrai, puisqu'il y a des différences de performance intellectuelle, mais qui pourraient être expliquées par tout un ensemble d'autres facteurs sociaux, fonctionnement, culture ethnique aussi, sans faire référence à des différences de patrimoine génétique. Donc c'est une utilisation, on arrive vite effectivement sur des utilisations idéologiques de ces données. Ouais.
Entre jeunes et vieux, quand on vieillit, est-ce que le QI change ?
Alors, là, il faut bien séparer, en fait, parce que le QI est en fait une construction arbitraire qui est faite par les psychologues. Et ce côté arbitraire a comme conséquence, c'est qu'on laisse toujours la moyenne à 100 pour tous les groupes d'âge. Et donc, si vous prenez des enfants à 6 ans, la moyenne du groupe de 6 ans, elle est de 100. Si vous prenez 25 ans, la moyenne du groupe de 25 ans, elle est de 100. Et donc, si vous prenez un groupe de 80 ans, par construction, on a fait en sorte que la moyenne de ce groupe d'individus de 80 ans soit de 100 également.
Donc, ce n'est pas le QI qu'il faut utiliser, mais alors disons l'intelligence.
Et donc, non, mais ça veut dire qu'à chaque fois, l'intelligence n'est que le positionnement des capacités de l'individu relativement aux autres. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, à 20 ans, quelle était votre position parmi les autres individus de votre groupe d'âge. Et donc, à 80 ans, quelle est votre position par rapport aux autres individus de 80 ans ?
On pourrait se poser la question, quelle est la position à 80 ans par rapport aux individus de 20 ans ?
Alors, on a aussi fait ça. Quand on regarde sur les études longitudinales, on regarde si effectivement il y a une relation entre les différences qu'on observait à 11 ans, par exemple. Il y a des études qu'on fait, il y a une étude de Deary qui est sur les enfants à 11 ans et les enfants à... Enfin, les mêmes enfants qui ont été suivis, qui ont retesté à 70 ans, et on a une très forte relation, puisqu'on a une corrélation cette fois-ci qui est de l'ordre de 0,70. Entre les différences qu'on avait à 11 ans et les différences qu'on a à 70 ans. Ça veut dire que à 11 ans, ceux qui avaient tendance à présenter les meilleures performances ont encore tendance à présenter les meilleures performances à 70 ans. Et donc, il y a, si vous voulez, l'ordre des individus, comme si c'était une course à pied. Je veux dire, celui qui avait gagné à 11 ans, en fait, il est toujours dans les premiers à 70 ans.
Donc, ce qu'on avait à 11 ans demeure à 70 ans en termes de différence, mais les capacités cognitives diminuent.
Alors, il y a probablement, après, quand on compare, quand on regarde ce qui se passe au cours de la vie, il y a des composantes qui sont beaucoup plus sensibles à l'effet de l'âge. Et la composante principale qui est influencée par l'âge, c'est effectivement la capacité à raisonner de manière logico-mathématique. Et donc, quand on compare des individus de 20 ans avec des personnes de 80 ans, ce qu'on constate, c'est que c'est sur les tests de raisonnement qu'il y a les différences les plus importantes, avec de meilleures performances à 20 ans. Si à l'inverse, vous prenez les épreuves verbales, il n'y a pratiquement pas de différence, voire même des meilleures performances pour les individus de 80 ans. Donc il y a effectivement, pour ce qui est verbal, une augmentation des compétences, des connaissances tout au long de la vie, alors que pour ce qui est du domaine du raisonnement, alors là aussi, il y a certains auteurs qui ont mis une limite autour de 35 ans.
On dit souvent, on commence à décliner à 35 ans. J'en ai 36, c'est le début de la fin.
Sur les capacités à raisonner, c'est à peu près effectivement à partir de jusqu'à 35 ans qu'on observe les meilleures performances. Et après 35 ans, ça commence effectivement à décliner. Mais toujours relativement aux jeunes adultes qui, eux, sont au top et donc ont les meilleures performances.
Est-ce que c'est important pour des jeunes adultes d'avoir une notion de leur propre intelligence, de connaître leur QI, ou est-ce que finalement on ne peut pas y faire grand-chose et puis voilà, ça apporte rien au bien-être au quotidien ?
Je pense que ça n'apporte rien au sens où les compétences intellectuelles mesurées à travers le QI, parce que le QI n'est qu'un score, ce n'est pas un test en fait, c'est un score, de toute façon, n'est pas un facteur déterministe. On n'est pas dans une logique déterministe. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des individus qui ont 140 de QI, donc qui devraient avoir de très bonnes compétences intellectuelles et qui, en fait, ne sont pas capables d'utiliser ces compétences, alors pour des facteurs divers et variés, mais n'utilisent pas ces compétences. À l'inverse, vous pouvez avoir une autre personne qui a un QI de 85, 90, donc moyen ou juste en dessous de la moyenne, mais très motivé, très preneur, très ouvert, et donc du coup, qui va en fait arriver à s'en sortir, malgré au départ peut-être des compétences qui pourraient être inférieures.
«
Ce passionnant monsieur s'appelle Thierry Le Serre, maître d'enseignement et de recherche en psychologie différentielle à l'Université de Genève. C'est vous qui l'avez rencontré pour ces QFD, Bastien Confino. Belle rencontre.
Belle rencontre, passionnante, je
trouve. Exactement. Et donc, ce qu'on retient, c'est que les tests de QI sont à relativiser. Voilà, on vient de le...
Notamment en fonction de la culture.
Exactement, de largement le dire. Même si utilisé dans un contexte bien précis, il reste tout à fait pertinent. Effectivement. Merci beaucoup, Bastien Confino. C'est la fin de l'émission.